Chapitre 71. Dolman Island, mardi 16 juin 1981. Tony Harrod cherchait désespérément à comprendre. Il n'aimait guère se trouver dans une situation dangereuse comme celle-ci, mais il se sentait encore plus stupide de ne pas la comprendre. Et il n'y arrivait toujours pas. Pour autant qu'il puisse en juger, Willy et Barent prenaient très au sérieux l'enjeu de leur partie d'échecs. Si Willy l'emportait, et Harrod avait rarement vu le vieux salaud concéder une défaite, Barent et lui continueraient de jouer à leur petit jeu, en bombardant des villes et en anéantissant des nations entières. Si c'était Barent qui gagnait, le statu quo serait maintenu. Mais Harrod n'était guère rassuré, après avoir vu Barent foutre en l'air celui de l'Island Club, dans le seul but de constituer son échiquier. Debout sur une case noire à deux rangées du bord, et à trois de cette dingue de Sewell, Harrod cherchait à comprendre. Il aurait été ravi de continuer à se triturer les méninges sans bouger de place, mais c'était à Willy de jouer.
« Pion en A4, bitte !»
Harrod le regarda sans rien dire. On lui rendit son regard. Il y avait une trentaine de gardes debout dans l'ombre, mais ils ne faisaient aucun bruit et ça lui foutait les jetons.
« C'est vous qui devez bouger, Tony, » dit Barent à voix basse.
Le milliardaire en costume noir se trouvait sur la même diagonale que lui, à deux cases de distance. Le cœur de Harrod se mit à battre la chamade. Il était terrifié à l'idée que Barent ou Willy puissent l'utiliser une nouvelle fois.
« Hé, je comprends rien à cette merde. Dites-moi seulement où je dois aller, bon Dieu !»
Willy se croisa les bras d'un air dégoûté.
« C'est ce que je viens de faire.
Vous devez aller sur la case A4. Vous êtes sur la case A3. Avancez d'une case. »
Harrod se plaça en hâte sur la case blanche devant lui. Il était à présent tout près de Tom Reynolds, ce zombie blond, et deux cases seulement le séparaient de la Sewell. Maria Chen était à côté de cette dernière, silencieuse.
« Écoutez, vous avez trois pions. Comment pouvais-je savoir qu'il s'agissait de moi ?»
Harrod dut se pencher pour voir Willy, dissimulé par la masse noire de Jensen Luard.
« Combien de pions blancs y a-t-il sur la colonne A, Tony ?»
dit Willy avec dédain.
« Maintenant, taisez-vous, ou je vous ferai avancer de force. »
Harrod se détourna et cracha dans l'ombre, tentant de maîtriser les tremblements de sa jambe droite. Barent répliqua aussitôt, ruinant les espoirs de Harrod qui s'attendait à de longues périodes de réflexion entre les coups.
« Roi en D5 »,
dit-il en avançant d'un pas, un petit sourire ironique aux lèvres. Cette décision parut stupide aux yeux de Harrod. Le milliardaire était à présent à l'avant-garde de ses pièces, à trois cases de Jensen Luard. Il étouffa un rire hystérique lorsqu'il se rappela que le colosse noir était censé être un pion blanc. Il se mordit la joue et pensa avec nostalgie à sa maison et à son jacuzzi. Willy hocha la tête comme s'il s'était attendu à cette riposte. Harrod se rappela l'avoir entendu dire que Barent souhaitait recentrer son roi, et fit un geste de la main au vieux juif.
« Fou en A3 !»
L'expion, répondant au nom de Saul, s'avança péniblement sur une diagonale noire pour se placer sur la case que Harrod venait de quitter. Il semblait encore plus mal en point vu de près. Son treillis était maculé de sang et de sueur. Il lorgna Harrod de ses yeux de myope incurable. Harrod était sûr que c'était ce fumier qu'il avait drogué et séquestré en Californie. Le sort du juif lui était complètement indifférent, mais il espérait qu'il prendrait quelques pièces blanches avant d'être sacrifié.
« Bon Dieu de merde !» pensa-t-il. « C'est complètement dingue !»
Barent mit les mains dans les poches de son pantalon et avança en diagonale, se plaçant sur la case blanche, juste en face de Luard.
« Roi en E4 !»
Harrod ne pigeait rien au déroulement de la partie. Les rares fois où il avait joué étant gamin, le temps d'apprendre les mouvements des pièces et de constater qu'il n'aimait pas les échecs, ses partenaires prétentieux et lui-même avaient d'abord éliminé leurs pions avant d'engager leurs pièces maîtresses. Ils ne faisaient jamais bouger leur roi, à moins qu'ils n'aient souhaité roquer, une tactique dont Hérode avait tout oublié, ou que leur roi ne soit menacé. Et voilà que ces deux prétendus grands maîtres, à qui il ne restait presque plus que des pions, exposaient leur roi comme un pervers expose sa bite. Et puis merde, Hérode renonça à comprendre. Willy et Barent étaient séparés par moins de 2 mètres. Willy plissa le front, se tapota les lèvres et dit
« Bauer, entschuldigen, bisrig zum C5. »
Willy se tourna vers Jimmy Wainsutter et traduisit
« Fou en C5. »
Le juif famélique qui se trouvait derrière Harrod se frotta les joues et alla péniblement se placer à côté de Reynolds. Harrod compta les cases depuis le bord de l'échiquier et constata que le fou se trouvait effectivement sur la 5e case de la colonne C. À moins qu'il ne s'agisse d'une rangée, il ne le savait plus et s'en foutait complètement. Il lui fallut plusieurs secondes supplémentaires pour comprendre que le juif protégeait la position de Luard tout en menaçant la Sewell qui se trouvait sur la même diagonale que lui. La bonne femme ne semblait pas avoir conscience du danger. Harrod avait vu des cadavres plus animés. Il la regarda de nouveau, essayant d'apercevoir sa chatte sous sa chemise déchirée. À présent que les règles de base des échecs commençaient à lui revenir, il se sentait plus détendu. Il ne courait aucun danger tant que Willy ne le faisait pas bouger. Un pion ne peut pas prendre un pion situé en face de lui, et Reynolds était à 1 case de lui sur sa droite, face à Maria Chen, le protégeant d'une attaque frontale. Harrod détailla la Sewell et estima qu'elle ne serait pas si mal si elle prenait un bain. « Pion en A6 », dit Barent avec un geste empreint de politesse. Pris de panique, Harrod crut une seconde que c'était à lui d'avancer, puis il se rappela que Barent était le roi noir. Miss Sewell obéit au milliardaire et se plaça en minaudant sur 1 case blanche. « Merci, ma chère », dit Barent. Harrod sentit les battements de son cœur s'accélérer. Le fou juif ne menaçait plus le pion Sewell. Elle se trouvait sur la même diagonale que Tom Reynolds. Si Willy n'ordonnait pas à Reynolds de la prendre, ce serait elle qui le prendrait au prochain coup. Et elle ne serait alors qu'à 1 case de Harrod, sur la même diagonale que lui.
Merde.
Pion en B6, répliqua aussitôt Willy.
Harrod tourna la tête, se demandant comment il pourrait parvenir à la case indiquée, mais Reynolds s'y était placé avant même que Willy ait pris la parole. Le pion blanc était sur 1 case noire, à côté de Miss Sewell et face à Maria Chen. Harrod humecta ses lèvres soudain sèches. Maria Chen ne courait aucun danger immédiat. Reynolds ne pouvait pas la prendre.
« Bon Dieu !» pensa-t-il. « Qu'arrive-t-il aux pions qui se font prendre ?»«
Pion en F5 !»
dit Barent d'une voix neutre. Swenson donna un petit coup de coude à Kepler, qui cligna des yeux et s'avança 1 case. Barent semblait soudain beaucoup moins isolé que Willy.
« C'est le 40e coup, je crois, »
dit Willy en s'avançant en diagonale sur 1 case noire.
« Roi en H4, mein Herr. »
« Pion en F4, » dit Barent en faisant de nouveau avancer Kepler 1 case.
L'homme au complet souillé s'avança d'un pas hésitant, glissant sur la case voisine de celle de Barent, comme si elle recelait un piège. Lorsqu'il y fut placé, il se tapit dans un coin, fixant des yeux le colosse noir qui se trouvait sur la même diagonale que lui.
« Pion prend pion !» murmura Willy.
Luard s'avança sur sa droite. Joseph Kepler hurla et fit mine de s'enfuir.
« Non, non !»
dit Barent en plissant le front. Kepler se figea, les muscles tétanisés, les jambes raides. Il pivota pour faire face au noir. Seuls les yeux exorbités de Kepler exprimaient sa terreur.
« Merci, Joseph, » dit Barent. « Vous m'avez bien servi. »
Il fit un signe de tête à Willy. Jensen Luard saisit des 2 mains le visage buriné de Kepler, le serra et le tordit brutalement. En se brisant, sa nuque fit un bruit sec dont les échos résonnèrent dans la grande salle. Un spasme l'agita,
Puis il mourut en se souillant une nouvelle fois. Sur un geste de Barent, des gardes vinrent évacuer le cadavre à la tête ballottante. Luard resta seul sur la case noire, les yeux fixés sur le vide. Barent pivota pour lui faire face. Harrod n'arrivait pas à croire que Willy allait autoriser la capture de Luard. Ça faisait au moins 4 ans que le noir était un des favoris du vieux producteur, qui partageait son lit au moins 2 fois par semaine. De toute évidence, Barent entretenait les mêmes doutes. Il leva l'index, et une demi-douzaine de gardes sortirent de l'ombre, braquant leur Uzi sur Willy et son pion. « Herr Borden ?» dit Barent en arquant un sourcil. « Nous pouvons encore déclarer cette partie nulle et reprendre le jeu que nous avons dû interrompre. L'année prochaine, qui sait ?» Le visage de Willy était un masque dénué de passion vissé sur une silhouette blanche. « Ich bin Herr General Wilhelm von Borchert, » dit-il d'une voix atone. « Jouez !» Barent hésita, puis adressa un signe de tête à ses hommes. Harrod s'attendait à une fusillade, mais les gardes se contentèrent de se mettre en position de tir. « Vous l'aurez voulu, » dit Barent, et il posa sa main pâle sur l'épaule de Luard. Harrod pensa par la suite qu'il aurait pu tenter de reproduire sur un écran la scène qui se déroula alors, à condition d'avoir à sa disposition un budget illimité. Albert Whitlock et une douzaine d'autres techniciens en effets spéciaux, mais qu'il n'aurait jamais pu obtenir le même effet sonore, ni la même expression sur le visage des figurants. Moins d'une seconde après que Barent lui eut doucement posé la main sur l'épaule, la chair de Luard se mit à palpiter, à ondoyer. Ses pectoraux se gonflèrent jusqu'à ce que son torse semble sur le point d'exploser. Ses abdominaux frémirent comme le tissu d'un drapeau flottant au vent. Sa tête se dressa comme un périscope, ses tendons s'étirèrent, se bandèrent, puis claquèrent avec un bruit de tissu qui se déchire. Son corps vacillait sous l'emprise d'un horrible spasme. Harrod pensa à une sculpture d'argile malaxée et broyée par un artiste capricieux, mais le pire, c'était les yeux. Ils roulaient dans leurs orbites, devenant 2 billes blanches, et ces billes semblèrent se gonfler jusqu'à être aussi grosses que 2 balles de golf, 2 balles de baseball, 2 ballons de football sur le point d'exploser. Luard ouvrit la bouche, mais ce ne fut pas un cri qui en sortit. Ce fut un torrent de sang qui déferla sur sa poitrine. Harrod entendit des bruits bizarres en provenance du pion, comme si ses muscles sautaient l'un après l'autre, ainsi que des cordes de piano étirées au-delà de leur point de rupture. Barent recula d'un pas pour ne pas tacher son costume noir, sa chemise blanche et ses souliers vernis. « Roi prend pion, » dit-il en ajustant sa cravate de soie. Des gardes vinrent évacuer le corps de Luard. Seule une case blanche séparait désormais Barent de Willy. La règle du jeu les empêchait d'y prendre pied. Un roi ne peut mettre en échec un autre roi. « C'est à moi de jouer, je crois, » dit Willy. « Oui, Herr General von Borchert, » dit Barent. Willy hocha la tête, claqua les talons et annonça son coup suivant. « On ne devrait pas être arrivé. » Nathalie Preston se pencha vers le pare-brise strié de pluie pour scruter l'horizon. Daryl Mix était occupé à mâchonner un cigare éteint. Il le fit passer d'un coin de sa bouche à l'autre. « Le vent était plus fort que je ne le croyais. Détendez-vous, on arrive bientôt. Cherchez les lampions sur la droite. » Nathalie se cala sur son siège et résista à l'envie de toucher pour la 30e fois le colt planqué dans son sac. Jackson posa les bras sur le dossier du siège avant. « Je ne pige toujours pas ce qu'une fille comme toi fait dans un tel endroit. » Il avait prononcé ce cliché pour détendre l'atmosphère, mais Nathalie se tourna vivement vers lui et rétorqua. « Écoute, je sais ce que je fais ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, gros malin ?» Percevant l'attention qu'il habitait, Jackson se contenta de sourire et de dire posément « Le Saul Brickyard n'a pas apprécié que ces types envahissent son territoire et malmènent des frères et des sœurs. Ils ont des comptes à rendre. » Nathalie dressa le poing. « Ces types ne sont pas n'importe qui. Ce sont des ordures. »
Jackson referma ses doigts autour du poing de Nathalie et le serra doucement. « Écoute, bébé, il n'y a que trois catégories de gens en ce bas monde. Les ordures noires et les ordures blanches. Les pires, c'est les ordures blanches, parce qu'elles ont plus d'expérience que les autres. » Il se tourna vers le pilote. « Sans vouloir t'offenser, mec. Il n'y a pas de mal. » Mix mâchonna son cigare et pointa un doigt vers le pare-brise. « C'est peut-être une de vos lumières là-bas à l'horizon. » Il consulta son odomètre. « Plus que 20 ou 25 minutes. » Nathalie dégagea sa main et la plongea dans son sac à la recherche du Colt 32. Il lui semblait plus petit et moins lourd chaque fois qu'elle le touchait. Mix ajusta un levier, et le Cessna perdit peu à peu de l'altitude. Saul s'obligea à suivre le déroulement de la partie en dépit de la douleur et de la fatigue qui menaçaient de le terrasser. Il redoutait de perdre conscience, ou de contraindre Willy à l'utiliser prématurément à cause de son manque de concentration. Dans les deux cas, Saul plongerait dans un état onirique et dans une phase de mouvement oculaire rapide, ce qui déclencherait un autre phénomène. Plus que toute autre chose au monde, Saul aurait voulu s'allonger et dormir d'un long sommeil sans rêve. Cela faisait presque 6 mois qu'il ne s'endormait que pour retrouver les rêves récurrents qu'il avait lui-même programmés, et il aurait accueilli la mort avec joie si elle n'avait été qu'un sommeil sans rêve. Mais pas encore. Après la mort de Luar, la seule pièce blanche à 5 cases à la ronde, l'Oberst, Saul se refusait à accepter sa promotion, avait profité du 42e coup pour avancer d'une case, plaçant le roi blanc en H5. Qu'il fût la seule pièce blanche sur l'aile roi ne semblait pas le troubler outre mesure. 2 cases le séparaient de Swanson, 3 de Sutter et 2 de Barent. Saul était la seule pièce blanche susceptible de venir en aide au vieil Allemand, et il s'obligea à se concentrer. Si le prochain coup de Barent rendait nécessaire le sacrifice du fou blanc, il se lancerait aussitôt à l'assaut de l'Oberst. Presque 6 mètres l'en séparaient. Saul espérait que la présence de Barent dans leur ligne de tir empêcherait certains gardes d'ouvrir le feu. Restait à considérer Tom Reynolds, pion blanc lui aussi, placé sur une case noire à moins 1 mètre de Saul. Même si les hommes de Barent ne réagissaient pas, l'Oberst utiliserait sûrement Reynolds pour le neutraliser. Barent se plaça en F5, à 1 case de distance de l'Oberst et près de la case occupée par Sutter. « Fou en E3 !» annonça l'Oberst. Saul se ressaisit et se hâta de se déplacer avant que l'Oberst ne l'y oblige de force. Même au repos, il avait du mal à visualiser la disposition des pièces. Il ferma les yeux et reconstitua l'échiquier pendant que Barent s'avançait en E4, juste devant lui. Si l'Oberst n'ordonnait pas immédiatement à Saul de bouger, Barent le capturerait au prochain coup. Saul garda les yeux fermés, se força à ne pas courir, se souvint de cette nuit dans les baraquements de Helmno, où il avait été prêt à se battre et à mourir plutôt que d'être emporté dans les ténèbres. « Fou en F2 !» ordonna l'Oberst. Saul recula d'un pas sur sa droite, séparé de Barent par 1 case et 1 pas en diagonale. Le milliardaire réfléchit au coup suivant. Il jeta un coup d'œil à l'Oberst et sourit.
« Est-il exact, Herr Général, que vous ayez été aux côtés de Hitler lors de ces derniers instants ?»
Saul écarquilla les yeux. L'étiquette des échecs interdisait aux joueurs d'entamer une discussion lors d'une partie. L'Oberst ne parut pas s'offusquer.
« Ja, j'étais dans le Führerbunker durant les derniers jours, Herr Barent. Et alors ?»« Rien. Je me demandais seulement si votre passion pour le Götterdämmerung datait de cette période de formation. »
L'Oberst gloussa.
« Le Führer n'était qu'un minable poseur. Le 22 avril, c'était 2 jours après son anniversaire, si ma mémoire est bonne, il a décidé de partir pour le sud, afin de prendre le commandement des armées de Schörner et de Kesselring avant la chute de Berlin. Je l'ai persuadé de rester. Le lendemain,
J'ai quitté la ville à bord d'un petit avion, décollant sur une rue qui traversait le Tiergarten en ruine.
À vous de jouer, Herr Barent.
Barent réfléchit durant 45 secondes, puis fit un pas en diagonale pour se placer en F5. Il se retrouva de nouveau à côté de Sutter.
Roi en F5.
Fou en H4, répliqua Lauberst.
Saul traversa deux cases noires en diagonale pour se retrouver derrière Lauberst. La blessure de sa jambe se rouvrit, et il pressa le tissu du treillis sur elle lorsqu'il fit halte. Il était si près de Lauberst qu'il pouvait sentir son odeur, un mélange de rance, d'eau de Cologne et de mauvaise haleine, un parfum aigre doux qui évoquait dans son imagination celui du Zyklon B.
James,
dit Barent, et Jimmy Wayne Sutter émergea de sa rêverie pour avancer d'une case, se retrouvant en E5 à côté de Barent. Saul s'exécuta.
Fou en G5,
annonça Lauberst dans un silence total. Saul regarda droit devant lui, contemplant le visage impassible de Swanson, l'agent fédéral, qui se trouvait à deux cases de lui, mais sentant la présence de Barent à sa gauche et de Lauberst à sa droite. Il aurait sans doute éprouvé la même impression si on l'avait jeté dans une fosse entre deux cobras en colère. La proximité de Lauberst le poussait à agir tout de suite. Il lui suffisait de se tourner et... Non. Le moment était mal choisi.
Saul jeta un bref coup d'œil sur la gauche.
Barent regardait d'un air presque indifférent les quatre pions qui se languissaient dans le coin de l'aile dame. Il tapota les larges épaules de Sutter et murmura
« Pion en E4 ».
Le prédicateur des ondes s'avança sur la case blanche. Saul perçut aussitôt la menace que Sutter faisait peser sur Lauberst. Un pion parvenu à la 8e rangée pouvait être promu et devenir n'importe quelle pièce. Mais Sutter n'était que sur la 5e rangée. En tant que fou, Saul contrôlait une diagonale incluant la case de la 3e rangée où Sutter était obligé de passer. On lui demanderait probablement de prendre Sutter. En dépit de la répugnance que lui inspirait le prêtre hypocrite, Saul résolut à cet instant de ne plus permettre à Lauberst de l'utiliser de cette façon. S'il lui donnait l'ordre de tuer Sutter, Saul se retournerait contre lui, quelles que soient ses chances de réussir. Saul ferma les yeux et faillit plonger en état de rêve. Il s'ébroua et serra sa main blessée, laissant la douleur le raviver. Son bras droit était engourdi sur toute sa longueur. Les doigts de sa main droite réagissaient à peine quand il essaya de les remuer. Saul se demanda où était Nathalie. Pourquoi diable n'avait-elle pas obligé la vieille à passer à l'action? Miss Sewell était toujours debout sur la case A6, statuette abandonnée, les yeux levés vers les poutres de la grande salle.
« Fou en E3 », dit Lauberst.
Se forçant à respirer, Saul regagna sa position précédente, bloquant le passage à Sutter. Il ne pouvait lui faire aucun mal tant qu'il restait sur une case blanche. Sutter ne pouvait rien contre lui tant qu'il resterait dans cette position.
« Roi en F6 », dit Barent en reculant d'une case.
Swanson se trouvait derrière lui sur sa gauche.
« Roi blanc en G4 »,
annonça Lauberst. Il se rapprocha de Sutter et de Saul.
« Et le roi noir ne se dégonfle pas »,
dit Barent sur le ton de la plaisanterie.
« Roi en E5 ».
Il avança d'un pas en diagonale pour se placer juste derrière Sutter. Les pièces allaient bientôt livrer bataille. Saul contempla les yeux verts du révérend Jimmy Wayne Sutter. Il n'y vit nulle panique, rien qu'une interrogation, un tout-puissant désir de comprendre ce qui se passait. Saul sentit que le jeu entrait dans sa phase finale.
« Roi en G5 !» annonça Lauberst,
occupant une case noire située sur la rangée où se trouvait Barent. Celui-ci hésita. Regarda autour de lui, puis se plaça sur la case à sa droite, s'éloignant de Lauberst.
« Herr Général, désirez-vous faire une pause pour prendre un rafraîchissement? Il est 2h30 du matin. Je vous propose de manger un morceau et de reprendre la partie dans une demi-heure. »
Nein,
répondit sèchement l'Oberst.
C'est le 50e coup, je crois.
Il avança d'un pas vers Barent, occupant la case blanche située près de celle de Sutter. Le prédicateur ne daigna ni bouger ni regarder par-dessus son épaule.
Roi en F5.
Barren se tourna pour fuir le regard de l'Oberst.
Pion en A5, s'il vous plaît, Miss Fuller.
Un frisson parcourut le corps de la femme sur la colonne A, et sa tête pivota comme une girouette rouillée.
Oui?
Avancez d'une case, je vous prie, dit Barent. Il y avait un soupçon d'anxiété dans sa voix.
Bien sûr, monsieur.
Miss Sewell fit mine d'avancer, se figea.
Mr. Barent, mon jeune pion ne court aucun danger, n'est-ce pas?
Bien sûr que non, madame. Barent sourit. Miss Sewell avança sur ses pieds nus et s'arrêta face à Tony Harrod.
Merci, Miss Fuller, dit Barent.
L'Oberst croisa les bras.
Fou en F2.
Saul recula d'une case sur sa droite. Il ne comprenait pas ce coup.
Barent eut un large sourire.
Pion en G5, dit-il aussitôt.
L'agent Swanson battit les paupières et avança de deux cases. C'était la première fois qu'il bougeait et il pouvait donc avancer ainsi, se retrouvant sur la même rangée que l'Oberst.
Celui-ci soupira et se tourna vers cette diversion. « Le désespoir vous gagne, Herr Barent. »
Il regarda fixement Swanson. L'agent ne fit mine ni de fuir ni de réagir. Il était sous une emprise mentale, celle de Barent ou celle de l'Oberst, qui le privait de toute volonté. Sa capture fut moins spectaculaire que celle de Luard. À un instant donné, Swanson était debout en position de repos, et l'instant d'après, il était mort, effondré sur la ligne de séparation d'une case blanche et d'une case noire.
« Roi prend pion, » dit l'Oberst.
Barent se rapprocha d'une case de Harrod.
« Roi noir en C4. »«
Oui. »
L'Oberst prit place sur la case noire, adjacente à celle de Sutter.
« Roi blanc en F4. »
Saul comprit que l'Oberst se préparait à éliminer Sutter pendant que Barent attaquait Harrod.
« Roi en B4, »
dit Barent, et il se plaça sur la case voisine de celle de Harrod. Saul observa la réaction de Harrod lorsqu'il se rendit compte qu'il était la prochaine victime de Barent. Plus blême que jamais, le producteur sumecta les lèvres et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour cracher dans l'ombre. Les gardes se rapprochèrent. Saul reporta son attention sur Jimmy Wayne Sutter. L'évangéliste n'avait plus que quelques secondes à vivre. L'Oberst ne pouvait que capturer ce pion sans défense lors du prochain coup.
« Roi prend pion !»
confirma Wilhelm von Borchert en prenant pied sur la case blanche de Sutter.
« Une seconde !»
s'écria celui-ci.
« Laissez-moi une seconde, j'ai quelque chose à dire aux Juifs !»
Willis secoua la tête d'un air dégoûté, mais Barent lui dit « Accordez-lui une seconde, Herr Général. »«
Faites vite !»
dit sèchement l'Oberst, de toute évidence impatient d'achever la partie. Sutter chercha sa pochette, ne put la trouver, et essuya sa bouche couverte de sueur d'un revers de main. Il regarda Saul droit dans les yeux et s'adressa à lui d'une voix ferme, tout à fait différente du rugissement mélodieux qu'il employait à la télévision.
Livre de la Sagesse, chapitre 3. Les âmes justes, elles, sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe. Pourtant, ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés, leur espérance était pleine d'immortalité. Après de légères corrections, ils recevront de grands bienfaits. Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a épurés. Comme l'offrande d'un holocauste, il les a accueillis. Au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront. Ils courront comme des étincelles à travers le chaume.
Ceux qui se confient en lui comprendront la vérité, ceux qui restent fermes dans l'amour demeureront auprès de lui. Car il y a grâce et miséricorde pour ses élus.
« C'est tout, frère James ?» demanda l'Oberst d'une voix légèrement amusée.
« Oui. »«
Roi prend pion, » répéta l'Oberst. « Herr Barent, je me sens un peu fatigué. Demandez à vos hommes de s'occuper de ça. »
Sur un signe de Barent, un garde sortit de l'ombre, colla le canon de son ousie sur la nuque de Sutter et lui tira une balle dans la tête.
« À vous de jouer !» dit l'Oberst, tandis qu'on évacuait le cadavre.
Saul et l'Oberst étaient désormais tout seuls dans l'aile roi. Barent resta quelques instants immobile au milieu des pions survivants, regarda Tony Harrod, puis se tourna vers l'Oberst et lui demanda « Accepteriez-vous de déclarer la partie nulle ? Je suis prêt à négocier avec vous les modifications que vous avez évoquées. »«
Nein. Jouez. »
C. Arnold Barent avança d'un pas et tendit une main vers l'épaule de Tony Harrod.
« Non, une minute, un instant, bordel !»
Harrod avait reculé jusqu'à la bordure de sa case. Deux gardes se placèrent de part et d'autre de lui et le mirent en joue.
« Il est tard, Tony, » dit Barent. « Soyez raisonnable. »«
Au Wiedersehen, Tony, » dit Willy.
« Attendez !» s'écria Harrod. « Vous avez dit que je pourrais changer de place. Vous l'avez promis !»
Sa voix était aussi géniarde que celle d'un gosse capricieux.
« Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda Barent irrité.
Harrod hoquetait comme un poisson à la recherche de son souffle. Il désigna Willy.
« Vous l'avez promis. Vous avez dit que je pourrais changer de place avec elle. »
Sans quitter des yeux la main tendue de Barent, il désigna Maria Chen d'un hochement de tête.
« Mr. Barent vous a entendu. Il a dit qu'il était d'accord. »
D'agacé, l'expression de Willy devint amusée.
« Il a raison, Herr Barent. Nous l'avons autorisé à changer de place. »
Barent était furibond.
Ridicule. Il souhaitait changer de place avec la fille si c'était elle qui était menacée. C'est absurde. « Vous l'avez promis !»
gémit Harrod. Il se frotta les mains et l'étendit vers l'Oberst, comme pour l'implorer d'intercéder en sa faveur.
« Dites-lui, Willy, vous avez promis tous les deux que je pourrais changer de place si je le voulais. Dites-lui, Willy, je vous en prie. « Dites-lui !»
L'Oberst haussa les épaules.
« À vous de décider, Herr Barent. »
Le milliardaire poussa un soupir et jeta un coup d'œil à sa montre.
« Nous laisserons la dame prendre la décision. »« Miss Chen ?»
Maria Chen regardait fixement Tony Harrod. Saul était impuissant à déchiffrer l'expression de ses yeux noirs. Harrod s'agita, regarda dans sa direction, détourna la tête.
« Miss Chen ?»
répéta Barent.
« Oui ?»
murmura Maria Chen.
« Pardon, je n'ai pas bien entendu. »«
Oui ?»
répéta Maria Chen. Harrod courba les épaules.
« Quel gaspillage !»
dit l'Oberst d'une voix songeuse.
« Vous êtes en sécurité, Fräulein. Quelle que soit l'issue de la partie, le pion que vous êtes n'a rien à craindre. » Il est vraiment dommage que vous échangiez votre place contre celle de ce tas de merde.
Maria Chen ne répondit pas. La tête haute, elle changea de case avec Harrod sans lui faire l'aumône d'un regard. Ses talons hauts claquaient sur les carreaux. Lorsqu'elle eut pris place sur la case blanche, elle sourit à Miss Sewell et se tourna vers Harrod.
« Je suis prête, »
dit-elle. Harrod évitait de la regarder.
C. Arnold Barent soupira et caressa du bout des doigts ses cheveux ailes de corbeau.
« Vous êtes très belle. » Il posa le pied sur sa case.
« Roi prend pion. »
Maria Chen rejeta violemment la tête en arrière et ouvrit sa bouche toute grande. Un bruit de crécelle émergea de son gosier lorsqu'elle tenta de respirer. Elle tomba en arrière, se griffant désespérément la gorge. Son agonie dura près d'une minute. Pendant qu'on évacuait le corps, Saul essaya d'analyser les actes de Barent et de l'Oberst. Il conclut que ces morts spectaculaires ne témoignaient pas d'une nouvelle dimension de leur talent,
mais qu'ils utilisaient celui-ci au service d'une démonstration de force brutale, s'emparant du contrôle du système nerveux de leur sujet et inhibant les programmes biologiques de son organisme. Ce processus exigeait de toute évidence beaucoup d'efforts de leur part, mais ils ne devaient pas différer outre mesure de leurs agissements habituels. Apparition soudaine du rythme θ chez la victime, puis induction d'un état de MOR artificiel et perte de contrôle total. Saul aurait parié sa vie qu'il ne se trompait pas.
« Roi en D5 !» dit Lauburst en s'avançant vers Barent.
« Roi en B5 !» répliqua Barent en reculant en diagonale pour se placer sur une case blanche. Saul cherchait un moyen par lequel Barent pourrait sauver la situation. Il n'en trouva aucun. Miss Sewell, le pion noir en colonne A, pourrait encore avancer. Mais elle n'avait aucune chance d'être promue tant que Lauburst disposait d'un fou. Harrod, qui était désormais un pion noir et se trouvait sur la colonne B, ne servirait à rien tant que Tom Reynolds lui bloquerait le passage. Saul lorgna en direction du producteur. Harrod était abîmé dans la contemplation du sol, apparemment indifférent à la partie qui approchait maintenant de sa conclusion. Lauburst disposait de Saul, son fou, et il pouvait d'un instant à l'autre mettre Barent en échec. Celui-ci n'avait aucun moyen de s'en tirer.
« Roi en D6 !»
dit Lauburst en prenant pied sur une case noire, sur la même rangée que celle occupée par Reynolds. Seule une case noire en diagonale le séparait de Barent. Lauburst jouait avec sa proie. Barent sourit de toutes ses dents et leva trois doigts en un salut dérisoire.
« Je m'incline, Herr General. »« Ich bin der Meister. »«
Bien sûr. Pourquoi pas ?» Barent franchit la distance qui les séparait et serra la main de Lauburst. Puis il parcourut la grande salle du regard.
« Il est tard. Cette soirée a cessé de m'intéresser. Je vous contacterai demain pour régler les détails de notre prochain affrontement. »«
Je rentre chez moi cette nuit, » dit Lauburst.
« Bien.
N'oubliez pas que j'ai confié à des amis européens des lettres et des instructions concernant les sociétés que vous possédez un peu partout dans le monde. Une sorte de sauf-conduit me permettant de regagner Munich en toute sécurité.
Oui, oui, entendu. Votre avion a déjà reçu l'autorisation de décoller, et je vous contacterai par le canal habituel.
Sehr gut.
Barent parcourut du regard l'échiquier presque vide.
Tout s'est passé comme vous l'aviez prévu il y a quelques mois. Une soirée très stimulante.
Yeah.
Barent se dirigea d'un pas vif vers la porte-fenêtre. Un peloton de gardes se déploya autour de lui, pendant que d'autres se mettaient en place dehors.
« Voulez-vous que je m'occupe du docteur Lasky ?» demanda le milliardaire.
Lauburst se tourna vers Saul et le regarda comme s'il avait oublié sa présence.
« Laissez-le, » dit-il finalement. « Et le héros de la soirée ?»
demanda Barent en indiquant Harrod. Le producteur s'était effondré sur sa case blanche, la tête entre les mains.
« Je m'occuperai de Tony, » dit Lauburst.
« Et la femme ?» fit Barent en indiquant Miss Sewell d'un hochement de tête. Lauburst s'éclaircit la gorge.
« Le sort de ma chère amie Mélanie Fuller devra figurer en bonne place parmi les sujets que nous aborderons demain. Nous devons lui témoigner tout le respect qu'elle mérite. »
Il se frotta le nez.
« Tuez ce pion tout de suite. »
Barent fit un geste. Un garde s'avança et tira une rafale de mitraillette. Touchée au torse et au ventre, Miss Sewell s'envola et atterrit hors de l'échiquier, comme chassée par une main de géant. Elle glissa sur les carreaux et s'immobilisa, les jambes écartées, la chemise en lambeaux.
« Danke !»
dit Lauburst.
« Bitte sehr !»
dit Barent.
« Guten Abend, Meister !»
Lauburst hocha la tête. Barent et son entourage s'enfuirent. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère décolla et s'envola vers le yacht ancré dans le port. Il n'y avait plus dans la grande salle que Reynolds, la silhouette affaissée de Harrod, quelques cadavres,
l'Oberst et Saul.
Eh bien!
L'Oberst enfouit ses mains dans ses poches et jeta à Saul un regard presque chagriné.
Il est temps de nous dire bonne nuit, mon petit pion.